Monsieur le Président, Madame, Monsieur.
Les procès du siècle.
Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSAM.
My life belonged to that struggle.
Saison 2.
Féminisme, genre et minorité.
Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle ouvrent un espace d'échange citoyen.
Après une première saison consacrée aux questions environnementales, nous dédions cette deuxième saison aux minorités dominées et à leur manière de s'exprimer, de résister, de revendiquer leurs droits.
Et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins.
Les procès du siècle, saison 2.
Féminisme, genre et minorité.
14 épisodes enregistrés dans l'auditorium du MUSEM.
Épisode 5. Être transfuge de classe, tar ou glamour. Avec Azouz Begag, Adrien Nazelli et Toufik Hakem à la modération.
Bonsoir, bonsoir et merci d'être venu pour partager cette nouvelle séance des procès du siècle du MUSEM, aujourd'hui consacrée à celles et ceux qu'on appelle les transfuges de classe. Alors, être transfuge de classe, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'on est issu d'un milieu populaire et qu'on a gravi l'échelle sociale pour intégrer les milieux aisés, intellectuels, bourgeois ou bobos. Alors, comment parvient-on à s'extraire de sa condition? Est-ce que passer d'un milieu social à un autre, cela engendre des incompréhensions, des suspicions, voire une forme de schizophrénie? Comment s'adapter à de nouvelles pratiques culturelles sans pour autant renier ses origines? Les transfuges de classe sont-ils le symbole de la fameuse méritocratie française ou sont-ils l'exception qui confirme la règle? Et ça fait quoi au juste d'incarner l'exemplarité? Par ailleurs, de plus en plus de célébrités, vous l'avez peut-être remarqué, des célébrités, des femmes, des hommes politiques se disent, se présentent, revendiquent parfois d'être des transfuges de classe, d'où l'intitulé de notre procès, être transfuge de classe, tare ou glamour. Et d'ailleurs, je voudrais ouvrir une parenthèse pour rappeler que j'aurais dû peut-être le préciser lors des dernières rencontres. Si on a opté ici au MUSEM pour des titres qui peuvent paraître provocateurs, c'est plus pour provoquer le débat et pas pour provoquer des malaises. Et ce soir donc, pour nourrir ce débat des témoignages, des pièces à conviction, des documents et deux invités de générations différentes sur le plateau. J'appelle l'écrivain, homme politique et chercheur Azouz Begag et le journaliste Adrien Nazelli. Bonsoir. Azouz Begag, bonsoir du bidonville de Villeurbanne dans la région lyonnaise où vous avez passé votre enfance, que vous racontez d'ailleurs très bien dans votre premier roman, Le Gun du Chabar, paru en 1986, aux fonctions ministérielles, puisque vous avez été ministre délégué à l'égalité des chances de 2005 à 2007 dans le gouvernement de Dominique de Villepin. On peut dire que vous êtes un exemple de transfuge de classe, mais est-ce qu'on employait d'ailleurs cette expression dans les années 2000?
Pas du tout, non.
On disait quoi, alors?
Que j'étais un ministre de la société civile. C'est-à-dire que je venais de nulle part, en fait.
Non, non, mais pour rappeler que vous venez d'un milieu populaire, on disait quoi?
Ah, ben ça, oui, né de parents immigrés, ça suffisait. Hein. Né de parents immigrés, ça veut dire forcément pauvre, dans l'imagerie française, en tout cas.
Et aujourd'hui, on dit transfuge de classe, cette expression, comment on...
Moi, je ne me suis jamais considéré comme un transfuge de classe parce que le transfuge, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Et la classe, je n'ai jamais adhéré, moi, à cette vision extrêmement étriquée, vision un peu marxiste-léniniste, hein, entre la classe des prolétaires et la classe des bourgeois qui détiennent les moyens de production et les prolétaires qui détiennent seulement leur force de travail à vendre. Et ce combat organisé, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, m'a toujours paru très réducteur.
Très bien. Alors, Azouz Begag, je rappelle que vous avez 65 ans, Adrien Nazelli, vous avez 33 ans, vos parents sont à la retraite, votre père était conducteur de bus puis de tram, votre mère secrétaire, vous avez fait de brillantes études et aujourd'hui vous êtes journaliste. Depuis peu d'ailleurs, vous travaillez pour les pages débat du quotidien Libération après avoir travaillé pour Le Monde, Radio France et dirigé la rédaction en chef du magazine Têtu. Alors, non seulement vous êtes un transfuge de classe, vous le revendiquez, mais vous avez aussi écrit un livre pour donner justement la parole aux autres transfuges de classe, titre de l'ouvrage paru l'année dernière chez La Teste. Et tes parents, ils font quoi? Enquête sur les transfuges de classe et leurs parents. Pour vous, être transfuge de classe, ça veut dire quoi?
Moi, j'ai découvert l'expression dans le livre de Didier Ribon, je pense comme beaucoup de personnes, Retour à Reims, et j'avais à ce moment-là 20 ans, puisque je faisais mes études, donc le terme a résonné très fort, parce que je me disais, effectivement, autour de moi, les gens sont enfants de profs, d'universitaires, d'éditeurs, de producteurs, de cinéma, et moi, mes parents sont conducteurs de tram et secrétaires, donc je suis différent des autres qui m'entourent, et c'était pratique d'avoir un terme pour s'identifier, et donc j'ai essayé de retrouver les autres qui partageait un peu mon destin social.
Quand vous dites que c'était pratique, c'était pourquoi ? Parce qu'il y avait un malaise, vous ressentiez un malaise, et que vous n'arriviez pas à trouver le mot, la formule pour l'expliquer, pour l'exprimer ?
On n'est pas préparé à quitter son milieu. Tous les cas de figure sont différents, mais en tout cas, il y a un décalage avec la famille, c'est sûr. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce bouquin, c'est d'aller voir les parents, justement de ne pas parler qu'aux fameux transfuges de classe à qui on donne la parole, que ce soit des écrivains, des comédiens, des politiques, mais aller parler à leurs parents qui, eux, donc, sont restés à leur place avec leur métier, qu'ils qualifient souvent de métier alimentaire, et de leur demander justement quel regard, déjà, qu'est-ce qu'ils voulaient pour leurs enfants, et qu'est-ce que ça a changé dans les rapports familiaux, que leurs enfants puissent valider des diplômes ? Est-ce que ça a cassé quelque chose ? Est-ce que ça a ajouté quelque chose ?
Qu'est-ce que ça dit sur notre époque, Azouz Begag ? Parce que je suppose que dans les années 80, on était tous portés par ce rêve, par cette utopie d'un ascenseur social qui va fonctionner, y compris pour les enfants d'immigrés, d'ouvriers immigrés, non ?
Quand vos parents, en 1970, vous disent « Tu vois l'école des Français où tu es ?» Tu vas t'installer au premier rang de la classe. Comme ça, tu montres au maître que tu es prêt à monter dans l'ascenseur. Faut pas rester derrière avec les Arabes.
Et le jeune Azouz ?
J'y vais, moi. Mon père m'a dit, attention, si tu n'es pas premier de la classe. Mon père, il lisait pas Françoise Dolto ou J'élève mon enfant. Mon père, pour nous éduquer...
Oh là là.
Wallah, c'est vrai. Ouais. L'éducation, ça se faisait avec ça. Je plaisante pas. Et par conséquent, moi, pour éviter ça, mais aussi parce que j'aimais bien être premier de la classe, je sais pas pourquoi, on voyait mieux quand on était devant, je suis arrivé là, et tous les gens, les gens de mon bled qui étaient là-bas derrière, ils me traitaient de sale traître. Tu veux devenir un Français ?
Adrien Nasselli ?
Y a une notion de trahison derrière. Moi, je trouve ça intéressant de dire que, en fait, on a trahi son milieu. Tous les parents sont pas d'accord avec ça, mais moi, dans le bouquin, et mes propres parents, considèrent parfois que on n'a plus les mêmes valeurs, même sur des choses toutes bêtes comme l'argent. Quand on gagne plus que ses parents dès l'âge de 25 ans, alors qu'on ne gagne pas énormément d'argent, hein, mais même 2000 euros, ça suffit pour gagner plus que ses parents, quel rapport se crée ? Moi, les gens que je connais, la plupart de mes amis qui sont dans le journalisme ou qui sont dans la culture en général, ne gagnent toujours pas plus que leurs parents à 33 ans, parce que leurs parents gagnent beaucoup d'argent. Et moi, en parlant aux parents du livre, alors effectivement, tous les parents qui ont eu un parcours d'immigration avaient programmé leur enfant. Enfin, ils m'ont tous dit, moi, il n'y a aucun problème, je voulais absolument que ma fille ou mon fils, les parents immigrés du livre, qui viennent du Vietnam, d'Algérie ou du Sénégal, ils ont tous dit, de toute façon, on voulait les propulser, on voulait qu'ils changent de milieu. Moi, je pense qu'en gros, les parents ont joué un énorme rôle et qu'il n'y a pas de transfuge de classe comme ça par hasard parce que c'est un joli scénario. Et c'est pas très progressiste de dire ça, mais en gros, c'est les parents les plus sévères et les plus stables qui ont créé des enfants, y compris dans des familles pauvres ou très modestes, qui ensuite réussissent à faire des études. En gros, qui leur ont donné un socle. Et là, ce que tu décris, sauf la violence, c'est quand même un socle de sévérité, de tu vas travailler à l'école. Et ils ont tous dit ça. Donc ça, c'est un des points communs que j'ai pu tirer, c'est que tous les parents surveillaient les devoirs, même si dès le collège, ils savent plus qu'on fabrique. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté à 15 ans. Donc en fait, à partir de 14-15 ans, on sait déjà plus de choses à l'école que eux. Donc on peut les embobiner, leur raconter ce qu'on veut.
Et comment on le vit ? Parce que c'est ce que disait Adrien Lasselli. Comment vous avez vécu le moment où vous gagnez plus d'argent que votre père, par exemple, Azouz Begag ?
Non, c'est surtout le fait que tu as 6 ans, tu as 7 ans, tu sais lire et écrire, et tu as en face de toi des parents qui ont 40-50 ans, ils ne savent pas lire, pas écrire. Il y a une très belle scène du film de Christophe Ruggia, Le Gone du Shahaba, dans lequel le papa tient l'étape de multiplication. Et l'enfant, qui a 7 ans, est en train de réciter devant sa sœur cette table, et le père surveille d'un œil tout en buvant son café. Et l'enfant dit, 7 fois 1, 7, c'est la table de 7, j'ai toujours eu des difficultés avec ça. 7 fois 8, là, 7 fois 9. Et il hésite, l'enfant. Et le papa, il voit qu'il hésite, parce que ça, c'est pas fluide. Comment, elle lui dit, tu sais pas ? Alors la sœur, elle répète 7 fois 9. Et le petit dit 62. Et la fille dit, c'est bien. Le vieux, il voit qu'il y a un truc qui va pas, là. Il dit, donne-moi ça, donne. Donc il prend la table de multiplication, et il la tourne à l'envers, parce qu'il sait pas lire. Hein. Il dit, répète ! Et le petit dit, 7 fois 9, 62. Le papa lui dit, c'est bien ça, mon fils. Il faut apprendre tout à l'école. Et en vérité, cette scène, elle fait rire, mais pleurer en même temps. Parce que le papa fait tout ce qu'il peut, le pauvre, pour imposer le fait qu'il est là pour surveiller. Et le gamin a intérêt de bosser en classe, de tout savoir par cœur sur le bout des doigts, sinon, la ceinture. Et ben, pour ne pas heurter, blesser les parents qui font confiance à l'école. Et pour éviter le cuir, eh ben, il valait mieux bosser, quoi. C'était plus facile.
Être transfuge de classe, Adrien Asselli, être transfuge de classe aujourd'hui, pour les gens de votre génération, est-ce que c'est une position, une posture, une case sociologique ?
Bah, oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Édouard Louis, je pense. Enfin, il y a des romans...
Écrivain, donc, bien sûr.
Écrivain, il y a des romans qui font du bruit, mais pas beaucoup qui font autant de bruit que En finir avec Eddie Bellegueule en 2013, je crois, qui a eu un retentissement énorme. Et il avait 21 ans ou 22 ans, donc je pense qu'il ne maîtrisait pas tous les enjeux de tout ce qui allait découler de cette parution-là. Et c'est un livre qui est important. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu s'identifier ou, disons, mettre des mots à partir de ça. Et puis aussi peut-être tout simplement parce que l'ouverture sociale promise, elle ne marche pas et que en fait, les chiffres sont très clairs sur les gens qui finissent les masters, qui font des thèses, qui intègrent les grandes écoles, ça ne bouge pas. C'est toujours les mêmes statistiques désastreuses de gens qui viennent des mêmes milieux. Et c'est toujours inversement proportionnel à la vraie sociologie de la vraie société. Donc, bah, au bout d'un moment, oui, en fait, on a de plus en plus de sources, de plus en plus de choses à consulter. Et on fait attention à ces enjeux-là. Mais par contre, il ne s'agit évidemment pas de prôner cette étiquette comme une identité, elle est inutile au monde. Si, la seule chose qui est utile, c'est qu'on vient d'un monde où les choses ne sont pas les mêmes. Donc en fait, quand on arrive dans un autre, on peut expliquer. On est un peu comme une sorte de... Voilà, on a vu des deux côtés ce qui se passait, quoi. Alors qu'il y a des gens qui, toute leur vie, ne voient que d'un côté. Soit qu'ils sont dans une reproduction sociale, bah voilà, ma cousine aide-soignante parce que sa mère est aide-soignante. Ou mon ami prof de français parce que sa mère est prof de français. Ces gens-là connaissent évidemment des choses différentes de par leurs expériences, mais par contre socialement, ils connaissent les mêmes milieux.
Quand on a décidé de parler des transfuges de classe, c'était il y a quelques mois déjà, on préparait la programmation de cette deuxième saison du Procès du siècle. C'était donc avant d'apprendre que Annie Ernaux allait obtenir le prix Nobel de la littérature. Vous avez sans doute lu ou entendu son discours à Stockholm. Elle dit « Je veux venger ma race et venger mon sexe ». Aujourd'hui, c'est une voix des transfuges de classe, Annie Ernaux. D'abord, peut-être que je vais vous donner la parole à vous, Azouz Begag, parce que vous avez...
C'est super violent, ce terme. Moi, quand toute ma vie, on m'a dit « sale race », je la connotais immédiatement avec un attribut ethnique, religieux. Alors que chez les intellos, le concept est surdéterminé. La race des gens pauvres. Moi, ça m'a choqué, ce mot. Il est violent, je ne l'emploie jamais, d'ailleurs.
Mais diriez-vous que Annie Ernaux, quand elle parle de race, c'est une manière de dire je reste fidèle à ma classe sociale et je le dis avec rage parce que je n'ai pas oublié d'où je viens.
Bah ouais, à 22 ans, quand elle écrit ça dans son journal, j'imagine que c'est ça qu'elle veut dire. Et puis c'était une autre époque. Et elle le raconte, elle l'a ressorti là. À 22 ans, elle fait ses études et elle écrit « J'écrirai pour venger ma race ». 22 ans... Voilà, elle pensait à ses parents. Elle voyait bien que les filles de la bourgeoisie avec qui elle était en études n'étaient pas comme elle. Et elle avait déjà ce truc. Après, elle est devenue une bourgeoise, comme voilà, beaucoup de gens qui arrivent à faire des études. Mais elle a toujours gardé cette intime conviction qu'elle n'avait pas vraiment changé au fond. Enfin, voilà, qu'on ne changeait pas vraiment. Moi, cette idée-là me séduit, même s'il y en a qui trouvent que c'est pessimiste de rester proche de ses racines, de jamais changer, de croire que l'humain ne change pas. Moi, je pense qu'on est déterminé pour toujours, même si ensuite on fait des choses. Enfin, je veux dire, on revient toujours aux premières années de sa vie. On ne change jamais vraiment totalement, même s'il y a des transfuges de classe qui sont devenus, par exemple, ministre de l'Intérieur. Bref, il y a, voilà, y a tout, mais il y a beaucoup d'Annie Ernaux, et c'est une femme qui, pour le coup, est très généreuse. Tout le monde le sait.
Mon discours vous séduit, vous la trouvez généreuse. Est-ce qu'elle vous représente, en quelque sorte ?
Bah, moi, j'aimerais être comme elle un jour. C'est-à-dire que j'écris pas de roman, mais disons que être réputé comme quelqu'un qui prend le temps de relire tous les livres qu'on lui envoie. Donc, il y a 15 000 jeunes qui lui envoient des livres par jour, des féministes, justement des transfuges de classe. Elle répond aux gens. Donc ça, déjà à 80 balais, maintenant 82. Moi, elle a relu les pages de mon livre. Je l'ai dit dans la conclusion. Elle a échangé avec moi. Elle a relu patiemment chaque chapitre de mon bouquin. Juste parce qu'elle trouvait ça intéressant de donner la parole aux parents.
Et ça, c'est quoi ? C'est un signe de solidarité, de classe, je ou pense. De transfuge de classe, puisque
c'est une
le mot race
choque
un peu Azouz Begag. Azouz Begag, vous vous retrouvez, est-ce qu'elle vous représente quelque part ?
J'ai beaucoup travaillé avec Annie Ernaux dans les années 80, à la rencontre des collégiens dans toute la France. Je la retrouvais souvent, comme par hasard. C'est toujours cette idée de violence liée à la réussite qui me gêne. Franchement, il n'y a pas de revanche à prendre. J'ai envie de dire à tous les enfants qui me disent « Nous aussi, on voudra être écrivain, on va faire comme vous. » Je dis « Oui, vas-y. » Si tu es, toi, là-bas, si tu aimes la plomberie ou la mécanique ou le travail du bois, la menuiserie, tu vas bien réussir aussi si tu aimes ton boulot. Hein. Mais ceux qui veulent être écrivain, lever le doigt, vous pouvez l'être. Oui. Ça ne me gêne pas du tout d'être exemplaire quand tu montres le bon chemin. Quand tu es sur la bonne voie, c'est-à-dire la voie de l'intelligence, de la recherche, la voie de l'intelligence, surtout. La voie de l'humilité, du questionnement de soi, du respect des autres et des différents. Ça ne me gêne pas du tout. Et moi, je préfère mille fois aujourd'hui que ce soit Annie Ernaux qui soit prix Nobel de littérature, plutôt que, comme elle le dit elle-même, Michel Houellebecq. Vous imaginez l'enfer que cela eut pu être? Ah non! Non! Eh bien non, heureusement, c'est Annie Ernaux. Chacun sa place, comme elle dirait.
Alors, la première pièce à conviction de ce procès est une pièce du musée. Et j'appelle à la barre Caroline Chenure, qui est chargée de recherche et de collection au MUCEM, avec sa pièce à conviction. Qu'est-ce que c'est donc ?
Qu'est-ce donc ? J'ai choisi un tailleur signé Mugler comme pièce à conviction. Un tailleur féminin qui reprend les codes du vestiaire masculin. Un tailleur qu'on pourrait qualifier de féministe. Pourquoi ? Parce que la notion de transfuge de classe est indissociable du féminisme. Dans le sens où le genre des femmes est un rapport social et de pouvoir. Un tailleur signé Mugler qui est dans les collections depuis quelques années, qu'il avait offert à l'association ACT UP Paris pour une vente caritative au profit de la lutte contre le sida en 1996. Un tailleur signé Mugler, donc Manfred Thierry Mugler, n'est pas exactement un transfuge de classe. Son père est médecin, alsacien. Bon, mais Mugler lui-même est un artiste transformiste pour lui-même, et qui a voulu transformer les femmes, l'image des femmes. Je le cite, « J'ai toujours travaillé pour que les femmes se sentent puissantes. » Et dans les années 80, il compte déjà parmi les forces du power dressing, dont ce tailleur est une illustration. Donc qu'avons-nous ? Deux pièces de couture, le blazer et la jupe crayon, nous y reviendrons, la cravate en soie, je ne développe pas sur la symbolique, et en dessous, la ceinture en cuir. Les épaules sont très larges, contrebalancées par une taille de guêpe étranglée. Mugler sculpte les formes féminines en volume. La femme prend sa place, comme dirait Annie Ernaux, elle s'inscrit dans l'espace. Il exagère ses courbes qui deviennent provocantes. L'allure est puissante. C'est une allure d'Amazone, une femme soldat, mais une Amazone avec des seins. Donc ce tailleur présente des seins en relief. La jupe crayon, c'est chez Hitchcock. Donc dans l'entre-deux-guerres, les jupes raccourcissent, mais elles arrivent en dessous du genou. La jupe crayon, vous la retrouvez aujourd'hui chez Dita Von Teese, chez Victoria Beckham. Des femmes puissantes, des femmes d'affaires. et ce milleret. Le milleret est le double boutonnage caban qui vient directement du vestiaire masculin. C'est le costume du gangster, du mafioso. Pensez à Alain Delon dans Borsalino, des codes complètement masculins. Donc c'est le costume du self-made man, approprié ici pour un costume féminin. Donc ce costume est la pièce à conviction du transfuge, au sens où Annie Arnaud voilà, venge sa race et son sexe. Donc voilà, avec ce costume, la femme peut exploser le plafond de verre et devenir transfuge.
Merci beaucoup, Caroline Chenu. Azouz Begag, j'ai bien envie de vous poser cette question. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez enfilé pour la première fois un costume? Est-ce que changer de milieu social, ça passe aussi par le vêtement?
Ah ben oui, bien sûr. Quand je suis devenu ministre, bon, je me suis dégoté un ancien costume que j'avais, mais les chaussures n'allaient pas avec. Et pour la première fois de ma vie, j'ai acheté une paire de chaussures à 300 euros. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il ne faut pas détonner sur le plan du costume, surtout des chaussures. On reconnaît un homme à ses chaussures, m'a dit je ne sais quel ministre. Mais tu as raison, vous avez raison de dire à quel point le code vestimentaire, c'est celui par lequel les 30 ministres qui sont autour de moi, ils savent que je suis un enfant de pauvre, un enfant des bidonvilles, ils vont regarder comment j'ai fait pour avoir une prestance qui pourrait supposer que je peux être ministre aussi, si je le souhaite.
Adrien Lacellier, est-ce que vous-même, vous avez changé votre manière de vous habiller, peut-être même de manger
En fait, c'est un peu l'inverse, je pense, moi. Parce que quand je suis arrivé à Paris, comme c'était un milieu que je voyais comme un peu bizarre, les gens s'habillaient un peu n'importe comment.
Vous venez d'où ?
Moi, Grenoble, donc dans la campagne à côté de Grenoble. Et je pense qu'en arrivant à Paris, je me suis habillé un peu comme Lady Gaga, bizarrement, pendant quelques années. Et après, j'ai eu besoin d'être sérieux et de m'acheter des trucs un peu plus conventionnels, donc des chemises. Mais c'est plutôt mes parents qui me disaient ça, qui me disaient « mais tu t'habilles n'importe comment, t'es habillé comme un as de pique ». Quand j'ai eu mon diplôme de l'ENS, j'étais habillé, je sais pas, avec un pull orange, des chaussettes roses et tout ça. Et ma mère disait « t'es mal habillé, habille-toi comme les autres, avec un costume ». Donc en fait, les gens des milieux populaires, on croit que... Voilà, mais pas du tout. C'est eux qui me poussent. Enfin, ma mère, son rêve, ce serait que je m'habille un peu classe, quoi.
Tu as parlé de manger tout à l'heure, c'est super important.
Oui.
Quand on est dans... Je cherche un truc qui pourrait remplacer transfuge. Quand on est en mobilité sociale, disons. Ben, on apprend, voilà. Mes parents, mon père supportait plus à la fin. Il buvait le café comme ça, ou le thé. Ça me rendait dingue. Bon sang, je voulais dire, papa, t'as pas besoin de... Il y a plein de gens.
Oui. Mais il y a tellement d'exemples.
Tu fais comme ça ?
Bah, moi, je bois pas comme ça, mais par contre, à Noël dernier,
ouais.
Les gens faisaient une pierrade dans ma famille, je les adore. Mais c'était une pierrade. Et il y avait un gamin à côté de moi, et je disais, mais tu connais des végétariens, toi ? C'était, voilà, un... Et il disait, bah non, pourquoi ? Alors que moi, tous les gens que j'ai rencontrés depuis, là, dans ces milieux, ils... pense, viande, enfin, ils se disent « Ah mince, il y a forcément des végétariens dans l'eau ». Là, pas du tout, c'était pierrade pour tout le monde.
J'ai passé une semaine au Maroc, là, et donc dans tous les couscous, les pastillas, tous les plats marocains, délicieux. Bon sang, les gens, ils boivent du Coca-Cola, en veux-tu, en voilà, et des boissons fluorescentes, sucrées.
Et qu'est-ce que tu dis ?
Moi, j'ai changé de classe, là. J'ai fait la mobilité sociale, la culbute sociale, voilà. Et pour tous ces petits détails, on voit qu'on n'appartient plus déjà dans la langue.
La manière de parler aussi, oui, bien sûr. Vous avez raison de le dire, oui.
Ben, on voit tout de suite que vous avez passé le guet. Et vous êtes de l'autre côté. Et c'est mon ancien ami Kateb Yassine qui avait dit à propos de la langue française, c'est notre butin de guerre. Et je trouve qu'il avait parfaitement raison. Donc ça, c'est le signe d'un transfert de classe qui a réussi d'un transfuge.
C'est intéressant que vous citiez Kateb Yassine, mais par exemple, Kateb Yassine, il roulait les R d'une manière exprès pour bien montrer que même s'il maîtrisait la langue française, il avait aussi sa propre histoire. Votre façon de parler avec les gens de votre quartier d'enfance, ils percevaient ça comment et vous le viviez comment, Azouz Begag ?
Je tiens toujours, et c'est ce qui me reste de mon origine sociale, c'est pouvoir être accessible aux gens avec qui j'ai grandi. Et pouvoir parler la langue qu'ils comprennent. J'étais avec Dominique de Villepin, Premier ministre, là, à Marseille. Je n'oublierai jamais, c'était une école de l'égalité des chances. Ouais. Il n'y avait que des jeunes qui étaient en difficulté. Et il a pris la parole, le Premier ministre, pour expliquer ce que c'était, le programme de service civique pour les jeunes comme eux. Bon sang, j'ai vu que les jeunes ne comprenaient rien à ce qu'ils disaient. J'ai fait une traduction en simultané, franchement. Parce qu'ils ne comprenaient pas, c'est tout. Ils n'avaient pas les codes. Et moi, j'avais les deux codes.
Ah, vous aviez les deux codes.
J'avais les deux codes.
Donc, on passe d'un code à l'autre.
Donc, j'ai dit à Dominique que je leur raconte ce qu'il a dit dire. Parce que Dominique de Villepin, il ne peut pas parler à ces jeunes. Et il y a plein de gens qui, je pense à l'École nationale d'administration ou dans les grandes écoles, qui ne peuvent pas parler avec les jeunes avec qui j'ai grandi. Le gamin hier qui me dit, « Monsieur Azouzbega, c'est vrai, tu es né dans un bidon d'huile ?» J'ai dit, oui, il me dit, mais comment tu es sorti? Voilà, ça, transfuge de classe.
J'appelle à la barre nos deux premiers témoins de la commission d'enquête qui vont d'ailleurs se présenter eux-mêmes.
Bonsoir. Les prises de parole des témoins que vous allez entendre ce soir sont issues d'un travail collectif en atelier qui s'est tenu hier, la commission d'enquête. Une dizaine de personnes se sont retrouvées pour ouvrir ensemble le sujet, préparer des témoignages et des arguments qui donnent à entendre des points de vue multiples au croisement de l'expérience vécue, de la réflexion et de la fiction. Je suis Rémi.
Je suis Grégoire. Et ce soir, devant vous, je serai Rémi.
Et je serai Grégoire.
Alors, lors de notre séance d'atelier, il nous a semblé important d'explorer les dimensions individuelles et collectives de cette question du transfuge. Et nous n'avons pas préparé un témoignage, nous allons simplement vous présenter en raccourci le chemin de notre réflexion. Enfin, bon, nous sommes arrivés à un intitulé.
Les récits de transfuge ne sont pas des récits collectifs.
Et par jeu, pour réfléchir ensemble, en discutant, nous avons choisi que l'un serait en accord avec cette affirmation et l'autre en désaccord. Alors voici nos arguments.
Je défends la position pour. Les récits de transfuge sont des récits collectifs.
Et je défends la position contre. Non, les récits de transfuge ne sont pas des récits collectifs.
Ben, les récits de transfuge sont des récits collectifs parce qu'ils permettent l'identification. D'autres que moi, dans des situations analogues, peuvent se retrouver dans mon récit.
Non, ils mettent en avant l'exceptionnalité d'un seul parcours. Je suis le fruit d'un hasard heureux, un concours de circonstances, un bel hasard en somme.
Mais les récits, ils sont la preuve que les classes sociales existent. Les classes sociales sont des groupes dans lesquels nous vivons, mais auxquels nous ne nous identifions pas forcément.
Les récits ne traitent pas que de celui qui parle. Au final, je suis le seul à avoir fait le voyage dont je parle.
Mais tu sais, il favorise quand même une certaine reconnaissance, à la fois dans mon groupe d'origine, dans les institutions, ou même dans la société en général.
Il masque la réalité de la mobilité sociale, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Je suis l'exception, en fait, qui confirme la règle.
Mais regarde, par exemple, Annie Ernaux, elle parle pour ceux qui n'osent pas parler ou ceux-mêmes qui n'ont pas de voix. Moi, par exemple, je suis en capacité de vous parler, là, parce que je sais d'où je viens et je sais d'où je parle.
Ils sont avant tout des discours de soi. Pourquoi mon histoire intéresserait-elle les autres?
Mais ce sont des discours qui expriment des émotions. Les récits sensibles sont universels.
Ils sont des preuves de l'individualisme. Hein, c'est le grand slogan « quand on veut, on peut ».
Mais ils sont utilisés comme de bons exemples parfois. Regardez, on n'est pas obligé de rester à notre place.
Moi, je trouve que ce sont des récits qui servent le pouvoir. C'est l'autre slogan. Vous regardez, puisque cette personne a réussi, vous voyez, c'est possible. C'est à la portée presque de tout le monde.
Bon. On pourrait durer encore longtemps, mais de part et d'autre, ces arguments prouvent qu'il n'est pas possible de tenir un seul discours sur les récits de transfuge.
Donc nous avons proposé une conclusion toute provisoire. On pourrait dire que les récits de transfuge sont des récits de l'entre-deux, et souvent même des récits de solitude. Merci.
Merci Rémi, merci Grégoire. Et donc, Adrien Nassili, Azouz Bouygag, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous êtes deux exceptions qui, ici pour confirmer la règle, Azouz Bouygag?
Je voudrais remercier les deux comédiens. C'est formidable, ça. Franchement, c'est formidable ce que vous avez fait. Voilà comment, en 5 minutes, on peut exposer tout un thème de débat super important. Quand je suis rentré au gouvernement, j'ai dit tout de suite, voilà, je ne veux pas être l'arabe qui cache la forêt. C'est moi qui ai trouvé ce truc, parce que je le sentais au fond de mes tripes. Et, il l'a fait, lui, hein. Donc, vous, là-bas, tous les gueux, les vilains qui habitaient de l'autre côté, vous pouvez le faire aussi. Et si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne voulez pas. Regardez, lui, pourquoi il l'a fait? Il n'avait aucune raison de le faire, aucun moyen pour réussir. Et pourtant, il le fit. Pas c'est simple. Alors, ils ont raison. La preuve est... Et puis après, si je dis, mais oui, je le fais, pourquoi? Moi, j'avais rien du tout, vous n'avez qu'à vous débrouiller, vous aussi. Faites comme moi, lisez, apprenez, voyagez. C'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, sinon c'est mort. Et après, vous avez dans mon gouvernement, si j'avais joué ce jeu de l'arabe de sévice ou de service ou qui cache la forêt, mais l'autre, là, le méchant, il m'aurait embauché dans ces troupes qui allaient carcériser les banlieues.
Sarkozy, et... ministre de l'Intérieur. Okay.
Oui, d'ailleurs, il me l'a dit. En novembre 2005, quand il y a eu les incendies partout en France, dans les banlieues, suite à la mort des deux jeunes de Clichy-sous-Bois, il me convainc un jour, il me dit, on va sortir de Place Beauvau et on va aller ensemble à l'Élysée, il n'y a qu'à traverser la rue, et puis les journalistes vont voir qu'on est ensemble, quoi, main dans la main. Et si j'avais joué ce rôle de l'arabe de service, il m'aurait entraîné avec lui dans un truc pas possible. Comme il le fit d'ailleurs avec Faudel, avec Doc Gineco, avec d'autres artistes qui ont été grillés par la suite. Ben, vous avez raison, on a une énorme responsabilité, nous qui avons passé le guet, de pas faire croire qu'il suffit, oui, de parler au collectif en leur disant « Suivez-moi !» Parce qu'il y en a un maximum qui vont se faire manger par les crocodiles, là. Non. Et donc, moi, j'étais très conscient tout de suite de cette exemplarité politique que je portais, et je m'en suis dégagé, souvent par l'humour. C'était ma voie de dégagement.
Adrien Nassili, comment vous réagissez? Vous êtes une exception à la règle?
Déjà, moi, je ne suis pas ministre. Hein, donc, je veux dire, j'incarne rien à part mon propre parcours, donc je pense que c'est déjà très différent. Je ne suis pas artiste, voilà. Je fais mon boulot de journaliste. Par contre, je constate que les journalistes viennent du même milieu, et donc ça, je peux en témoigner, et je pense que c'est quand même important. Moi, c'est pas... Voilà, c'est mon éditrice, surtout, qui a voulu que je rajoute des choses sur moi dans le livre. Je pense que si je n'avais pas eu mon parcours, si mes parents ne m'avaient pas dit... Non, ne poursuis pas tes études supérieures, ça sert à rien à un moment donné. J'aurais pas eu la sensibilité que j'ai eue pour aller voir les parents de ce livre. Clairement, il fallait que j'aie cette histoire-là. Et l'idée que j'ai eue, c'était non pas de raconter ma vie, mais d'aller chercher ce que pensent ces familles, ces parents qui, eux, n'ont pas changé. Ils sont restés à la même place toute leur vie. Donc en fait, voilà, on peut. Enfin, j'ai retenu les arguments et je suis assez d'accord en fait avec. Le fait que ce n'est pas un discours qui émancipe, c'est pas un discours collectif. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces discours-là? C'est parce qu'on vit dans un monde de méritocratie et qu'à chaque gouvernement, il y a un nouveau ministère de l'égalité, de peut-être ta chance demain. Enfin, on ne vit que dans un monde où il faudrait monter. On vit dans une idée qu'il faut monter socialement.
On va parler un peu de ces gens qui, aujourd'hui, veulent prolétariser leur origine sociale, car ça permet de mettre en valeur leur trajectoire individuelle, soi-disant liée au mérite. Comment vous réagissez, et l'un et l'autre? D'abord, peut-être qu'il faudrait nous raconter les histoires de Woodkid et de Redcar, puisque ce sont vos pièces à conviction.
On n'a pas le temps de les écouter. Hein.
Non.
Alors, Redcar, donc Christine and the Queens, anciennement, s'est retrouvé un peu piégé un jour sur un plateau, le plateau de Click de Mouloud Achour, qui lui dit... Alors, il y avait Béatrice Dalle et Christine and the Queens, et Mouloud Achour dit « Vous êtes toutes les deux des transfuges de classe. » Béatrice Dalle, c'est vrai. Et malheureusement, pour Redcar, c'est pas le cas, puisque son père est professeur d'anglais à l'université de Nantes, même le directeur de l'UFR, donc voilà, milieu universitaire, cultivé, d'ailleurs si...
Mais ses grands-parents étaient paysans.
Voilà, et donc là, sur le plateau, on dit « vos grands-parents étaient paysans », et Christine Hazel-Quinn, à l'époque, dit « effectivement, j'ai les mémoires des muscles de la classe ouvrière dans mon corps ». Et ça a fait beaucoup de critiques, les gens se sont beaucoup moqués d'elle en disant... En gros, cette bourgeoise qui s'invente des origines populaires. Mais ce que je veux...
Vous étiez parmi eux ?
Moi, Adrien, oui, évidemment, j'ai rigolé un peu. Mais par contre, je l'excuse volontiers, parce que déjà, on a le droit de penser ce qu'on veut de son parcours et de sa trajectoire sociale. On a le droit d'avoir les mémoires des muscles de la classe ouvrière, si c'est ce qu'on ressent. Par contre, que le journaliste, qui en plus est un transfuge de classe, Mouloud Achour, ne la reprenne pas et ne lui dise pas « Attention, ton père, enfin votre père est professeur, enfin directeur de l'UFR d'anglais à la fac de Nantes », Ça m'étonne. Et donc, ça me fait dire, et franchement, j'ai des centaines d'exemples dans la presse plutôt écrite, mais il y a aussi des interviews télé, de gens qui, soit malgré eux, soit parce qu'ils ont envie, c'est plutôt le cas de Woodkid, que par ailleurs j'adore, hein, je précise, j'aime beaucoup ces personnes, mais qui vient de dire dans un entretien, un podcast au magazine du Monde, le M, je suis un transfuge social. C'est vrai que quand on a fait mon premier voyage à New York, j'avais 16 ans. Et ma mère, c'est la première fois qu'elle prenait l'avion. Elle en avait 40. Ben, déjà, si tu fais un voyage en vacances à New York. Il a eu aussi son premier Macintosh à 12 ans. Il disait qu'il était un des premiers de l'école à l'avoir. Son père travaille dans la publicité. Bon, en tout cas, je pense qu'effectivement, il a rencontré plus riche que lui sur son parcours. Mais il faut mettre des grades dans la classe moyenne. Il y a la petite classe moyenne d'où je viens, la moyenne moyenne et la moyenne supérieure. Et moi, les trois quarts des gens que je connais, c'est la moyenne supérieure. Mais sauf que lui, le pauvre Woodkid, il a connu des gens beaucoup plus riches et beaucoup plus stylés que ses parents, qui sortaient pas trop au concert, etc. Donc il imagine être un transfuge de classe. Donc c'est très intéressant. En fait, tous les gens se cherchent maintenant des origines.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Aujourd'hui, le transfuge de classe, celui qui a réussi à s'en sortir pour passer d'une classe prolétaire à une classe aisée, c'est le héros des temps modernes.
Le roi
modernes.
Du pétrole, je pense, ouais. Enfin, c'est pas le cas, mais en tout cas, c'est intéressant de regarder qu'il y a énormément de cas et il faudrait les analyser parce que je pense que c'est parfois un peu de bêtise. Mais parfois, c'est le système médiatique qui pousse les gens à s'inventer des origines. Après, là, il y a un truc récent, je ne sais pas si vous avez vu sur TikTok, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, Lily Rose Depp. Il y a un... Je l'adore aussi, mais il y a eu un énorme scandale parce qu'elle a dit... Je ne comprends pas pourquoi on nous en veut, nous, les Nepo Babies, parce qu'il y a un mouvement de gens qui disent les Nepo Babies, issus du népotisme, c'est les fils de stars. Donc en fait, on ne veut plus leur parler. Donc on se moque d'eux. Et Lily Rose Depp a dit, je ne comprends pas pourquoi on se moque de nous. Quand quelqu'un est docteur, si son fils ou sa fille devient docteur, on ne dit pas, ah ben c'est parce que tes parents étaient docteurs. On dit, c'est parce que tu as réussi tes études. Donc la pauvre Lily Rose Depp, qui n'a rien compris à la sociologie, qui... a sorti la pire excuse du monde, se fait moquer d'elle. Elle n'en sort plus maintenant. Elle a des anti-Nepo Babies qui lui tombent dessus toute la journée. Mais c'est intéressant, ça relance le débat. Donc il y a des Instagrammeuses qui disent « Moi, j'ai dû prendre le train et dormir dans le métro pendant que toi, tu passais les castings dans ta chambre. » Enfin, en gros, il y a énormément maintenant de débats sur les classes sociales, y compris sur TikTok.
Allez, j'appelle à la barre le dernier témoin de la commission d'enquête. Et je vous laisse vous présenter.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Alice, j'ai participé aux travaux de la commission d'enquête et ce soir, devant vous, je serai Juliette Jourda. Issue d'une famille monoparentale, je suis la fille d'une secrétaire médicale. Je viens porter plainte contre la réussite sociale. Je suis transfuge de classe et on m'a menti. J'ai détruit ma mère. Depuis mon enfance, j'ai vu ma mère travailler dur pour me permettre de vivre. J'ai été ce qu'on appelle une bonne élève. Enfant, je la voyais se tuer à la tâche. Elle me disait « Juliette, si tu veux me faire plaisir, je te demande une chose, c'est d'être bonne à l'école. » Je lui ai obéi. Un jour, ma professeure d'histoire m'a parlé d'une bourse, d'un dispositif conçu pour les gens comme toi. À la clé, intégrer une classe préparatoire. Je ne savais pas trop ce que c'était. Préparatoire à quoi ? À la vie ? Elle m'a dit que si je voulais réussir plus tard, ça pouvait être une belle opportunité à saisir et qu'elle ne se représenterait peut-être plus. Réussir ? Qui ne veut pas réussir ? J'ai été admise, j'ai pénétré un monde dont j'ignorais tout. Et j'ai ressenti pour la première fois de ma vie de la honte. Je culpabilisais, je vivais une double vie. L'une avec ma mère et l'autre dans le huis clos de cette prépa. La plupart de mes camarades m'ont vite fait comprendre que je n'étais pas des leurs. En fait, nous n'étions pas camarades, mais adversaires. Les places valaient cher. Je travaillais nuit et jour pour prouver que moi aussi je pouvais réussir. Je me suis forgé une mentalité de gagnante. Et j'ai gagné. J'ai été la plus forte. J'ai intégré la meilleure école de France. Le jour de la rentrée, on nous a dit « Vous êtes l'élite de la nation ». Je me suis sentie fière et surtout très heureuse pour ma mère. J'étais de plus en plus à l'aise dans cette grande école et de moins en moins chez moi. Mais qu'importe, je me rapprochais chaque jour de la réussite. Grâce à mes compétences et des rencontres facilitées par ma nouvelle école, j'ai pu créer ma start-up. Ma mission ? Œuvrer pour un monde en meilleure santé. Comment ? En créant un logiciel qui révolutionne le quotidien des médecins et des patients à travers une prise de rendez-vous en ligne facilitée. Et puis, tout récemment, j'ai invité ma mère au restaurant pour fêter les 3 ans de ma start-up. Au cours du dîner, elle m'a annoncé s'être faite licenciée du cabinet médical dont elle était secrétaire. N'ayant aucun diplôme et vu son âge, nous savons toutes les deux qu'elle ne pourra pas retrouver de travail. Ce jour-là, j'ai réalisé que je lui avais fait perdre son emploi. Ce jour-là, j'ai réalisé que je l'avais conduite à sa chute. Je l'ai véritablement détruite. Mais aujourd'hui, je réalise aussi que j'ai été complice d'une énorme mascarade. J'ai adhéré à un système qui travaille à liquider la société entière, à détruire le collectif au profit du productivisme. J'ai été un pion. Un pion au service d'une société basée sur un rapport de pouvoir entre dominants et dominés. J'ai été instrumentalisée, bernée. J'ai moi-même glamourisé mon parcours, alors qu'en fait, je suis traître au mien. Ce n'est pas que ma mère que j'ai tuée, mais ma classe. Pour tout cela, j'accuse et je demande réparation.
Merci beaucoup. Pour réagir à ce témoignage, pardon, c'est la question bis, est-ce que vous avez invité vos parents au ministère à rencontrer ce monde ? Comment vous avez préparé cette rencontre ?
Ah, c'est une bonne question. Elle aurait pu me tirer les larmes aux yeux, mais comme je suis à sec depuis longtemps... Mon père était mort quand j'ai été nommé ministre. Et ma mère... Elle ne connaissait pas la signification de cette distinction. Ça veut dire quoi pour une dame de 90 ans que le fils est ministre et qui ne sait pas lire, pas écrire et qui ne parle pas français ? Ça ne veut rien dire du tout. Donc une fois, j'étais assis à côté d'elle, quelques jours après avoir été nommé, et on regardait la télévision. Et elle m'a vu à l'Assemblée nationale faire une intervention. Elle m'a dit « Ourak, où tu es ?» J'ai dit « Je suis là, avec toi, là. » C'est ça, ma mère. C'était ça, elle est morte aussi. Et la chose la plus importante qui me est arrivée dans ma vie, en 1987, lorsqu'un Lyonnais fort connu de la télévision s'appelait Bernard Pivot, m'invita, toujours le passé simple, à présenter à apostrophe mon livre. Alors, dans la cité de la Duchère, au nord de Lyon, où j'habitais, alors là, mes parents, ont compris que c'était important, hein, et ils ont invité tout l'immeuble, enfin beaucoup de gens de l'immeuble pour regarder ensemble cette émission sur France 2 à 21h30. Et là, c'était vraiment un feu d'artifice de fierté et d'orgueil, une revanche sociale contre l'analphabétisme de mes parents qui a résonné dans cette cité de la Duchère et aujourd'hui encore dans cette cité. Et quand je marche, les gens sont fiers. Non pas qu'un enfant d'immigré ait réussi, mais qu'un enfant de la cité leur a prouvé à tous ces salauds d'en haut là-bas qu'on pouvait vivre dans ce béton et avoir des rêves et les réaliser quand même.
C'est la même chose, Adrien Nasselli, dans votre campagne de...
Bah, disons que c'est moins visible, quoi.
Ouais. Enfin,
voilà. Mais en tout cas...
Ça, d'accord.
Contrairement à d'autres choses, mais ça, ce n'est pas visible. Mais en tout cas, non, moi, ça me fait penser au livre, à des parents que j'ai rencontrés et qui en fait disent que leurs enfants, moi je pensais à par exemple Aurélie Vallone qui est cette écrivaine, ce que j'ai entendu dans le témoignage tout à l'heure, moi qui m'a beaucoup ému, enfin dans l'histoire, c'est cette idée de faire du mal à ses parents. C'est pour ça que moi j'ai fait ce bouquin. On nous dit qu'il faut faire des études et qu'on sera heureux, et en fait on se retrouve à les blesser. Et il y a certains parents qui se sont ouverts très frontalement à moi en me disant oui, ma fille. Me reprend dès l'âge de 15 ans, elle me disait on va chez le coiffeur, on va pas au coiffeur.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, les parents, ils étaient tristes de ça. Ils disaient mais pourquoi elle va à l'école? C'est pour voilà. Donc moi, c'est ça que je suis allé chercher dans le bouquin, c'est ces petits moments de friction. Là, c'est un exemple très concret parce que du coup, le travail finit par annuler le travail de la mère. Donc c'est la boucle est bouclée quoi. J'ai pas d'exemple aussi catastrophique, mais par contre, plein de petits moments comme ça où ben voilà, on se fait reprendre par ces gosses.
Merci beaucoup. Merci Adrien Nasselli. Merci Azouz Begag. Et merci à vous, cher public. Passez de très très bonnes fêtes et puis rendez-vous pris le 9 janvier.
Cette séance a été enregistrée le 12 décembre 2022 avec la participation d'Azouz Begag, Adrien Nasselli, Caroline Chenu et de Toufik Hakem à la modération.
C'était le podcast Procès du siècle, féminisme, genre et minorité. Une proposition conçue et mise en scène par le MUCEM en collaboration avec Grégoire Ingold.
À la modération, Judith Duportail, Toufik Hakem, Talma Desta,
Paloma Moritz, Valentine Auberti et Victoire Tuaillon.
En partenariat avec Libération, Blast, Le Bonbon et Mademoiselle.
Réalisation, Copie Carbone.
Rendez-vous sur le site du MUCEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction.
Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.